Bonsoir à vous tous et bon carême, en tout cas bonne septuagésime. Alors les spécialistes en tout et un peu plus comme Olivier savent que c'est le pré-carême et nous sommes en effet en pré-carême. Alors je vous propose de suspendre la retraite spirituelle sur la Sainte Trinité du cardinal Danielou pour l'écouter nous parler du carême et alors comme on pouvait s'y attendre d'une façon très originale, d'une façon même dépaysante, voire un peu déconcertante. D'où le titre de l'émission de ce soir, Carême et Pentecôte. Jean Danielou, pour nous expliquer le carême, nous propose de mettre en œuvre une sorte d'opposition, non seulement distinguée, mais même presque opposée, tant du carême, la sainte quarantaine, et puis la sainte Pentecôte, la cinquantaine pascale. Et en voyant à quel point ces deux périodes de l'année liturgique, qui pourtant se touchent, sont différentes, nous allons peut-être pouvoir découvrir quelques aspects du mystère du carême et du mystère de l'histoire du carême. Alors ce texte est extrait d'un gros livre de Jean Danielou qui s'appelle « Essai sur le mystère de l'histoire » qui date de 1952-1953 et qui reprend une bonne partie de ses études sur les liens entre l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et l'Église. La grande idée, c'est qu'il y a un peu trois étapes. L'Ancienne Alliance, la Nouvelle Alliance et Éternelle Alliance, et le temps de l'Église. Alors les deux, le temps de l'Église et bien sûr Alliance dans le sang du Christ, se compénètrent, se recouvrent, mais néanmoins, pour comprendre la profondeur des mystères, d'avoir cette idée de trois moments différents et assez facilement repérables peut être extrêmement lumineuse et féconde. Jean Danielou, d'entrée de jeu, nous parle d'une opposition. Il dit qu'il y a une opposition entre les 40 jours du carême, qui représentent le temps de ce monde, le temps dans lequel nous vivons actuellement, et la cinquantaine pascale, les 50 jours de la Pentecôte, qui sont la figure du monde à venir. Donc, le carême étant de l'ordre du déjà-là, et la Pentecôte de celui du pas-encore, ce qui est encore à venir, le monde à venir. Cette conception très importante d'opposition entre carême et cinquantaine pascale est en même temps biblique et liturgique. C'est donc grâce à l'étude de la Bible d'un côté et de la grande liturgie de l'autre que nous allons pouvoir scruter une telle opposition féconde. Cette opposition, elle est profondément liée à la théologie de l'histoire en tant que le temps qui s'écoule, le temps des hommes, et à cette idée de la fin de l'histoire. Dans cette manière de comprendre l'histoire avec un grand H, nous allons chercher les origines de l'histoire et les origines de l'histoire du carême. Et ensuite, nous allons voir comment il y a une préparation au monde à venir, et dans le carême, et dans la Pentecôte. Il y a, dans notre existence de tous les jours, cette existence dont nous parlions tellement à partir du mystère de la Trinité, il y a dans notre existence, dans le carême et dans la Pentecôte, toute une vision qui est celle de la préparation du salut et ensuite de l'attente du monde à venir. Voilà, planter un petit peu le décor. Cette façon de faire se répondre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament et la vie de l'Église est essentielle parce qu'elle place le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus-Christ et son mystère, au centre de tout. Les 40 jours passés par le Christ en toute vérité historique au désert, et qui sont un temps de jeûne et de tentation, un temps d'épreuve, sont ainsi au cœur de tout ce que nous avons à comprendre. Parce que, d'une part, il y a la relation de ces 40 jours du Seigneur Jésus avec les 40 ans passés par Israël dans le désert, Israël qui est au désert pour être tenté, la relation avec les 40 jours de jeûne de Moïse et d'Élie, et de l'autre côté, de Jésus qui est au centre, il y a notre carême dans le temps de l'Église, les 40 jours de notre carême. La vision est toute simple. Au centre de tout, les vrais 40 jours que le Seigneur Jésus passe au désert, avant, il y a dans l'Ancien Testament toutes les annonces prophétiques et les annonces historiques des 40 jours et des 40 ans, et de l'autre côté, des 40 jours du Christ, il y a tous les carêmes qui existeront jusqu'à la consommation des siècles. Mais au centre de tout, il y a le Christ avec ses vrais 40 jours et 40 nuits passés au désert. C'est une manière très particulière de redire que le Christ Jésus est au centre du carême. Ce qui est au centre du carême, ce ne peut pas être des activités, des dévotions, des organisations de partage, de miséricorde, de compassion. Ça ne peut pas être le jeûne, ça ne peut pas être la mortification, ça ne peut pas être des moments d'aumône. C'est le Seigneur Jésus. Il n'y a pas d'autre centre possible au carême que le Christ Seigneur. Jean Danienou nous dit, dans ces 40 jours de tentation au désert, nous pouvons dire le Seigneur Jésus, dans toute sa vie, mais très particulièrement dans sa passion, sa mort et sa résurrection. Voilà planté le décor du carême, encore une fois. Nous avons les trois plans successifs de l'histoire du salut. Peut-être vous souvenez-vous de la façon de parler du baptême, le baptême comme entrée dans l'histoire du salut. Eh bien, ces trois plans successifs, comme nous l'avons déjà dit, c'est l'Ancien Testament, le Christ au milieu et l'Église ensuite. Les sacrements de l'Église sont ainsi, et les sacramentaux, le carême étant un sacramental, des figures, des réalités dernières, des réalités ultimes de tout ce qui est de l'ordre de la fin des temps, de la parousie du Seigneur et de l'entrée de toute la création dans l'éternité de Dieu. Le carême est une expression liturgique et symbolique du fait que le temps que nous vivons sur cette terre est un temps de préparation à la Pâque. Le carême permet de ne jamais oublier que nous sommes en préparation, que nous sommes en train d'accompagner le Seigneur Jésus pour avoir part à sa mort, à sa résurrection et à sa glorieuse ascension à la droite du Père. Tournons-nous vers les pères de l'Église, grâce à Jean Danielou, qui les connaît tellement bien. Et avec les pères de l'Église, nous allons découvrir à quel point ils se sont interrogés sur le mystère du nombre 40. Alors tout d'abord, un Gaulois, Saint-Hilaire de Poitiers, qui nous dit « Le démon savait que c'était durant 40 jours que les eaux du déluge s'étaient répandues, que la terre promise avait été explorée, que la loi de Moïse avait été écrite par Dieu, que le peuple avait vécu dans le désert de la vie des anges. » Et voilà pourquoi le démon est confronté aux 40 jours du Seigneur Jésus. Saint Ambroise de Milan, de son côté, dit « 40 jours, tu reconnais le nombre symbolique, le nombre mystique. Tu te souviens que c'est pendant ce nombre de jours que les eaux du déluge se sont répandues, que le prophète s'est sanctifié par le jeûne, que Saint Moïse a mérité de recevoir le don de la loi, que les pères dans le désert ont vécu du pain des anges. On pourrait multiplier presque à l'infini les citations et les énumérations. Ce qui va beaucoup plus nous apporter de lumière, c'est de remarquer que certaines allusions, certaines explications apparaissent comme étant propres à un auteur, alors que d'autres se retrouvent pratiquement chez tous. Ben c'est comme cela qu'on étudie les pères de l'Église. On recherche particulièrement celles qui sont communes à presque l'ensemble, à presque l'unanimité des pères de l'Église. Et ce sont celles-là qui vont nous intéresser. Parce que ces interprétations qui deviennent communes constituent finalement ce qu'on appelle la tradition de l'Église, le trésor de la tradition de l'Église. Et ainsi, elles vont présenter à nos yeux une sorte de garantie à la fois de catholicité, d'antiquité et d'authenticité. Lorsque une interprétation est partagée par presque tous, elle a évidemment une valeur beaucoup plus grande. Jean Danielou a fait le travail pour nous, nous le remercions, et il nous dit, eh bien, au final, ces interprétations, ces allusions, vont être au nombre de deux. Deux et seulement deux. D'un côté, 40 ans de tentation au désert, et de l'autre, 40 jours de jeûne pour Moïse et pour Élie. C'est toute la souplesse de l'esprit biblique, de l'esprit hébreu, que de ne pas tellement se soucier que d'un côté il y ait des années et de l'autre des jours. L'important, c'est ce chiffre 40 qui devient un chiffre à la fois symbolique et mystique. Bien sûr, il y a d'autres développements qui sont secondaires, mais ces deux thèmes doivent retenir notre attention et notre cœur. Le nombre 40 est seulement un signe. L'important, c'est de saisir les réalités auxquelles il renvoie. Et nous ne sommes pas ici dans une espèce de symbolique alambiquée, cryptée, abstraite au sujet des nombres, qui serait fondée sur la propriété naturelle des nombres. Non, ce n'est pas comme ça que la Bible nous parle avec des chiffres. Il s'agit de résonances précises qu'un nombre a avec toute la tradition juive et chrétienne à cause d'événements auxquels ils sont associés. Ce sont les événements qui sont importants. Évidemment, nous ne sommes ni dans la numérologie, ni dans la kabbalistique, ni dans une façon cryptée et secrète de présenter l'histoire. Ce sont des événements qui sont reliés entre eux, d'une façon très subtile, par un simple nombre. Alors, écoutons ces 40 années passées au désert, qui permettent toujours, et pour nous chaque année, alors que nous nous préparons à entrer au carême, qui permettent toujours d'approfondir le mystère du carême. Pour le livre des nombres, ces 40 années, c'est le temps durant lequel la colère du Seigneur s'exerce sur la génération sortie d'Égypte. Une génération qui n'entrera pas dans la terre promise. Selon les 40 jours que vous avez mis à explorer le pays, autant de jours, autant d'années, vous porterez le poids de vos péchés pendant 40 années et vous saurez ce que c'est qu'être éloigné du Seigneur votre Dieu. Une autre citation du livre des Nombres, la colère du Seigneur s'enflamma contre Israël et il les fit errer dans le désert pendant 40 années jusqu'à ce que fût anéantie toute la génération qui avait fait le mal aux yeux du Seigneur. Il semblerait que cette conception des 40 années, globalement négative, soit la plus ancienne dans la tradition biblique. Il est remarquable que cette symbolique des 40 ans est celle d'un temps de châtiment, un temps de châtiment qui se retrouve dans l'histoire du déluge et dans l'histoire d'Ézéchiel. Ce serait un peu décourageant d'en rester à une telle interprétation des 40 jours du carême, comme un châtiment que Dieu nous imposerait. Donc le carême serait avant tout afflictif. Ce serait un moment pour souffrir, pour se faire du mal pratiquement. Heureusement, l'ensemble de la Bible nous aide à lire les choses d'une façon complètement différente. Et déjà avec le Deutéronome. Avec le Deutéronome apparaît une autre interprétation des 40 jours qui demeure un temps d'épreuve que Dieu impose à son peuple. Mais un temps d'épreuve qui est médicinal, qui va vers le bien, qui va vers la santé et vers la gloire. Et ce qui est admirable, et voilà qui va tellement nous enseigner pour notre propre carême, c'est que pendant ce temps d'épreuve, Dieu est avec son peuple, Dieu est auprès de son peuple. Nous savons que le psaume 90 est le grand psaume du carême, et c'est le psaume qui nous dit à quel point Dieu nous accompagne, Dieu est proche de nous, qu'il en tombe 1000 à tes côtés, qu'il en tombe 10 000 à ta droite, Dieu est auprès de toi. Dieu te protège, il te couvre de ses ailes, Dieu est là, qui t'empêche de tomber, qui t'empêche d'avoir mal. Le temps du désert est un temps de grâce où Dieu va opérer des merveilles pour son peuple. C'est une vision capitale du carême, un temps de grâce pendant lequel la grâce de Dieu, le travail de Dieu va être plus intense. Et voilà pourquoi le carême peut être un temps de joie, un temps que nous attendons avec une réelle impatience, parce que la miséricorde de Dieu va s'exercer avec plus d'intensité et si nous nous y ouvrons, avec davantage de fécondité. Voici ce que dit le Deutéronome. Le Seigneur Dieu a connu ta marche à travers ce grand désert. Voici 40 ans que le Seigneur est avec toi et tu n'as manqué de rien. Évidemment, nous n'entrons jamais en carême sans être accompagnés par le Seigneur Jésus, par la bonté du Père et la grâce du Saint-Esprit. Dieu connaît notre grand désert du carême et il veut être là à chaque instant de ce mystère du carême. Le livre du Deutéronome, chapitre 8, verset 2. Tu te souviendras de tout le chemin que le Seigneur ton Dieu t'a fait marcher durant 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour connaître les sentiments de ton cœur, pour voir si tu garderas oui ou non ses commandements. Le Seigneur ton Dieu t'a fait avoir faim et il t'a nourri de la manne, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le Seigneur, pendant ce temps de l'épreuve, donne sa grâce et sa présence. Comment serait supportable un carême sans la présence active du Seigneur, et même envisageable? Cette interprétation beaucoup plus positive, beaucoup plus consolante, la consolation de la présence de Dieu, est finalement celle que nous trouvons dans les autres livres de l'Ancien Testament. Puisqu'une des caractéristiques de l'Ancien Testament, c'est de raconter encore une fois la même histoire pour lui donner un déploiement théologique, une interprétation spirituelle, pour lui donner un sens divin. L'Ancien Testament commente l'Ancien Testament. Déjà, il n'a pas eu besoin d'attendre le Nouveau Testament et les Évangiles pour commenter les événements de l'Ancien Testament, déjà à l'intérieur de l'Ancien Testament. Et voilà comment on peut résumer les choses. les 40 ans sont un temps de grâce. Le chiffre 40 va finalement être là pour nous dire attention, c'est un temps privilégié. C'est un temps exceptionnel, mais exceptionnel du point de vue du bien, du point de vue de ce que nous pouvons recevoir. Pendant ce temps, malgré l'épreuve, ou peut-être grâce à l'épreuve, Dieu a été tout proche de son peuple. Peut-être pouvons-nous demander humblement d'expérimenter cette proximité de Dieu pendant que nous essayons de vivre le plus saintement possible les 40 jours du carême. Dieu a été proche et Dieu a subvenu aux besoins du peuple en pénitence pendant 40 ans dans le désert. Bien sûr, en même temps, c'est un temps d'épreuve. Dieu a voulu exercer son peuple par l'épreuve, l'exercer à ne s'appuyer que sur Dieu, que sur lui. Et voilà pourquoi, d'une manière très exceptionnelle, le carême est le temps de la foi. On pourrait oser une opposition à la manière des oppositions que présente Jean Danielou, qui s'il n'ose pas manifester d'une façon aussi tranchée, une opposition entre un carême de la morale et un carême de la foi. Et ce que nous trouvons dans l'Ancien Testament vient répondre à ce qui pourrait être un dilemme, carême de la morale ou carême de la foi, en disant carême de la foi, bien sûr. Tant de foi avant tout. Tant de foi en la présence de Dieu et tant d'une foi qui est ravivée, qui est illuminée pour être très présente au moment du Vendredi Saint, du Samedi Saint, et du jour de Pâques. Le psaume 94 ne cesse de nous redire cela, c'est le temps de la foi. L'épreuve manifeste la dureté de notre cœur, mais l'épreuve peut aussi manifester notre foi. Nous pouvons, avant la pause musicale, réentendre ce psaume 94. Si vous pouviez aujourd'hui écouter ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme à Meriba, comme au jour de Massa dans le désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué. Pendant 40 ans, j'ai eu cette race en dégoût, et j'ai dit, c'est un peuple au cœur égaré. Nous sommes intéressés aussi d'apprendre que cette interprétation des 40 années passées au désert était familière au judaïsme. Le judaïsme du temps du Seigneur Jésus. Et ainsi, lorsque l'événement se produit des 40 jours du Christ au désert, eh bien, autour de lui, on comprend une grande partie des harmoniques d'un tel choix et d'une telle durée. Dans le Nouveau Testament, nous allons retrouver ces interprétations. Le livre des Actes des Apôtres est particulièrement intéressant ici. L'auteur du livre des Actes des Apôtres attache une grande importance au nombre 40. Il divise la vie de Moïse en trois périodes de 40 ans. Il donne 40 années au règne de Saül. Et il est le seul texte du Nouveau Testament à situer l'ascension du Christ 40 jours après la résurrection. À deux reprises, l'auteur du livre des Actes des Apôtres rappelle les 40 années passées au désert. Il dit, c'est le Seigneur qui a fait sortir les Juifs d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles, en Égypte, dans la mer Rouge et dans le désert durant 40 ans. Et un peu plus loin, au chapitre 13, le Seigneur a tiré le peuple d'Égypte par la puissance de son bras et il a supporté leur caractère dans le désert durant 40 ans. Vraiment, les contemporains du Seigneur Jésus étaient finalement mieux à même que nous de saisir tout ce que pouvait avoir d'important la durée de 40 jours passés au désert. Pour nous, ce qui est important, c'est que le Nouveau Testament montre que l'épreuve des 40 ans du désert a abouti à un échec. Alors, ça ne veut pas dire que nos carêmes vont tous être des échecs. Cela signifie bien davantage que l'Ancien Testament, comme le Nouveau Testament, nous enseigne comment ne pas aller à l'échec. Échec est préfiguration en même temps d'une épreuve autrement plus grande. Dans l'Épître aux Hébreux, qui est aussi un commentaire du psaume 94 que nous avons entendu, « Aujourd'hui, si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas vos cœurs, comme il arriva au lieu nommé la contradiction au temps de la tentation au désert, où vos pères me provoquèrent. Cependant, ils avaient vu mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, j'ai été en colère contre cette génération et j'ai juré, ils n'entreront pas dans mon repos. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux commente « Qui sont ceux qui, ayant entendu la voix, se révoltèrent ? Et contre qui Dieu fut-il irrité durant 40 ans ? N'est-ce pas ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse ? Puisque donc ceux qui reçurent les promesses ne sont pas entrés, Dieu fixe de nouveau un jour qu'il appelle aujourd'hui. » Nous sommes les héritiers de cette tradition spirituelle, mais humblement demandons au Seigneur que les choses ne se passent pas pour nous comme elles se sont passées pour eux. Que nous n'entendions pas le Seigneur nous dire « Vous n'entrerez pas dans mon repos ». Au contraire, et au terme du carême, d'une façon très particulière, que le Seigneur puisse s'adresser à chacun d'entre nous et nous dire d'une façon extrêmement réjouissante « Entre dans le repos de ton maître. Entre dans la résurrection de ton Seigneur. Avec ma grâce, tu t'es bien préparé. Maintenant, entre dans ma résurrection. » Toute cette interprétation du psaume 94 offerte par l'Épître aux Hébreux est précieuse. Elle montre la signification eschatologique du carême. Le carême a un lien avec la fin ultime de toute l'histoire. Le carême nous tourne vers la fin des temps. Il y a eu une première épreuve du peuple de Dieu durant les 40 années au désert. Cette épreuve s'est terminée par un échec. La génération du désert n'est pas entrée dans la terre promise. C'est pourquoi le psaume 94 annonce une nouvelle épreuve, une nouvelle possibilité d'entrer dans le repos de Dieu. Ce qui n'a pas été une réussite dans l'Ancien Testament va devenir une réussite totale et irréversible dans le Nouveau Testament. Le premier exode, dont parle bien sûr le temps du carême, le premier mystère de l'Exode, la première Pâque dont parle le temps du carême, est une figure de l'Exode ultime, voilà, de ce merveilleux passage du Christ des ténèbres de la mort à la vie éternelle, qui est un passage dans lequel nous sommes invités à entrer, à habiter et finalement à demeurer, nous aussi, pour l'éternité. L'Épître aux Hébreux affirme que le temps de ce nouvel exode est arrivé. Que le temps de ces nouvelles 40 années, qui pour nous deviennent 40 jours, parce que cela devient de la liturgie, du cycle liturgique annuel, le temps de ces 40 jours est arrivé. Et il est offert à nouveau. Il est une grâce de Dieu. Il est un repêchage, une rédemption, un rachat offert par le Seigneur. C'est le « aujourd'hui » du psaume 94. l'épître aux Hébreux, commentant le psaume 94 et nous le donnant pour notre carême, nous dit « ça y est, l'aujourd'hui du psaume, c'est maintenant ». Et appliqué au carême, l'aujourd'hui du psaume, c'est ce carême de cette année. Le Christ annonce sur la croix au bon larron que le paradis qui était promis est désormais là. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et bien de même ici, l'Exode attendu et attendu de manière particulière dans ce psaume 94 est présenté comme étant totalement actuel. Chaque jour du carême va être un aujourd'hui pendant lequel le Seigneur va redire « Aujourd'hui, ne ferme pas ton cœur ». Les paroles du psaume 94. Comment ce temps est-il vraiment présent? Est-il vraiment aujourd'hui? Eh bien, tous les pères de l'Église se mettent d'accord pour nous tourner notre cœur vers l'Évangile. C'est grâce à l'Évangile que nous savons que le temps de la quarantaine rédemptrice est arrivé. La tentation du Christ est présentée dans l'Évangile en parallèle avec la tentation de tout le peuple élu. Une seule personne d'un côté, tout le peuple élu de l'autre, et des tentations qui se ressemblent, des mystères d'épreuves et de tentations qui se ressemblent. Les deux ont lieu au désert, parce que le désert est le lieu du combat spirituel. Un lieu où le combat spirituel est présenté comme par l'Ancien Testament comme étant le plus intense et le plus décisif. Ainsi, les trois tentations du Christ sont mises par les évangiles en relation avec les tentations du désert. C'est l'aspect plus difficile du carême. Celui qui décide d'entrer dans l'aujourd'hui du carême avec détermination, avec enthousiasme, avec conviction, celui-là entre dans le combat spirituel et celui-là doit se préparer à être attaqué, pas seulement attaqué par l'adversaire, mais attaqué par la pression du monde et attaqué par lui-même, par ce qu'il reste de ténèbres en lui-même. La première tentation au désert, celle qui est relative aux pierres changées en du pain, renvoie au Deutéronome. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La seconde tentation renvoie à l'épisode de l'eau jaillie du rocher, auquel fait allusion le psaume 94. Et la troisième tentation fait clairement allusion au Sinaï et au veau d'or. Nous pouvons méditer les tentations du Seigneur Jésus vraiment à partir de l'Ancien Testament pour en comprendre différemment la profondeur. Pour nous, il y a quelque chose de décisif, c'est que la tentation du Christ a vraiment duré 40 jours. Nous n'avons aucune raison sérieuse de supposer que ce nombre ne correspond pas à un laps de temps réel. Pourquoi remettre en cause le caractère historique de ce que le Seigneur Jésus a lui-même raconté sur son expérience au désert? Nous devons, par contre, nous demander et réfléchir intensément pour parvenir à savoir pourquoi ce laps de temps a été choisi par le Christ. Pourquoi il a été bien compris, bien noté par ceux qui allaient mettre par écrit les évangiles. Le nombre de 40 était dans la tradition juive, et très spécialement dans la tradition juive très proche de la naissance du Seigneur Jésus, donc la plus récente, celle qui s'était le plus développée et qui entourait la vie du Seigneur Jésus. Le nombre 40 était le nombre par excellence de la tentation. Donc si il y a d'autres sens au nombre 40 dans l'Ancien Testament, au moment où le Seigneur Jésus est sur terre, la pensée rabbinique, la tradition juive, avait mis l'accent sur la tentation. D'autres détails de la tentation du Christ peuvent être mis aussi en relation avec la tentation au désert. Et on peut ainsi considérer comme certain que la tentation du Christ est présentée par l'Évangile en comparaison, mais aussi en opposition avec la tentation de l'Exode. Il y a des similitudes, mais une dissimilitude encore plus grande. Et la plus grande dissimilitude, c'est la fidélité du Christ qui s'oppose à l'infidélité d'Israël. Voilà une lecture vraiment très belle de cette opposition. D'un côté l'échec, de l'autre la victoire. D'un côté le refus de croire et de l'autre la confiance infinie du Fils dans le Père. Ainsi, le jour de Dieu annoncé par le psaume 94, l'aujourd'hui, arrive avec le Christ. Ce que aucun n'avait pu réussir dans toute l'histoire d'Israël, évidemment, le Fils de Dieu le réussit, l'accomplit et le réussit, ce sera vrai par sa résurrection, au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer, au-delà de tout ce qu'on pouvait espérer. La tentation du Christ, qui débouche sur une victoire irréversible, une victoire divine et éternelle, il faut que nous y participions. Mais nous participons à l'épreuve du Christ, nous participons au combat spirituel du Christ pour recevoir de lui la victoire. La liturgie ne cesse de nous montrer qu'est accompli dans les membres du Christ les mystères qui ont d'abord eu lieu dans le chef de l'Église, dans le Christ, la tête. Et c'est ainsi que nous arrivons au carême. Ce n'est pas sans raison que la liturgie nous fait lire, le premier dimanche du carême, le récit des tentations du Christ au désert. Elle le fait pour nous donner un sens profond au carême. Le carême est préparation au baptême, et en cela, le temps du carême est un temps de tentation, d'épreuve, un temps qui tourne notre cœur vers la victoire. Nous pouvons terminer en écoutant, comme nous le faisions au sujet du baptême, Saint Cyrille de Jérusalem, qui nous dit: Le serpent est au bord de la route, il guette ceux qui passent, il suit des yeux ceux qui sont en train de se sauver et il cherche à les dévorer. Garde ton âme pour qu'il ne puisse la saisir. Garde notre âme dans la paix, Seigneur, pendant ce temps du carême. Telle est notre prière.
Chers auditeurs, c'était notre émission Dieu tellement vivant. Vous étiez avec le Père Nicolas Sautreau. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.